Pourquoi Afrique ?
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgan Guiriek, Eric Manirakidza. Bienvenue dans cette édition du mardi 28 juin 2016. Au sommaire ce soir, Morgane.
Ali Bongo est de nouveau dans la course pour la prochaine présidentielle. Il a vanté ses mérites devant le Parlement gabonais réuni en congrès.
Soudan du Sud, la longue marche vers la paix. 10 000 personnes ont fui les combats qui ont fait 40 morts.
L'Europe augmente la pression sur le Royaume-Uni pour formaliser rapidement le Brexit.
Rapport final sur l'attaque de Benghazi en Libye qui a coûté la vie à 4 Américains. C'était en septembre 2012.
Et dans moins de 10 minutes, plein faux sur l'Euro 2016, mais d'abord le journal.
Le Conseil de sécurité doit adopter une résolution pour le renforcement de la mission de maintien de la paix de l'ONU au Mali. L'ONU a affiché son intention d'augmenter de 2500 hommes, environ 2000 soldats et 500 policiers. Les effectifs de la MINUSMA, forte de 12 000 hommes, mais très exposés aux attaques, notamment des groupes djihadistes, et le Conseil de sécurité se réunit aujourd'hui à 14 heures.
République démocratique du Congo, la justice a rouvert le procès de 32 Bantous et Pygmées accusés de crimes contre l'humanité et de génocide. Des affrontements, souvenez-vous, avaient opposé ces communautés au Katanga en 2013.
Et au Gabon, le président Ali Bongo défend le bilan de son septennat. Il part à l'offensive donc pour sa propre succession à 2 mois de la présidentielle. N'est-ce pas Anastasie Toudiech?
Ali Bongo Ondimba s'est exprimé devant le Parlement réuni en congrès. Il s'est autocongratulé pour avoir transformé l'économie de son pays, fondée exclusivement sur l'exportation des matières premières comme le pétrole, les mines et le bois. Le président Bongo a déclaré que les Gabonais sont peu à peu sortis de la léthargie. Il a notamment souligné la transformation du bois et du manganèse localement, ainsi que le développement de l'agriculture. Au chapitre des infrastructures, M. Bongo a vanté près de 700 km de routes bitumées, l'amélioration de l'accès à l'électricité et aux soins, sans oublier la création de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Néanmoins, Ali Bongo a reconnu peu de résultats dans le logement. Il a aussi indiqué que beaucoup reste à faire, surtout réformer un système d'éducation adapté au marché du travail. Une étude commanditée par le gouvernement en 2014 révèle un taux de chômage de 30% chez les jeunes, soit le tiers de la population gabonaise.
Human Rights Watch vient de publier un rapport de 700 pages sur les crimes qui ont été commis au Tchad. L'occasion de demander à la France d'enquêter sur sa politique passée en raison de son soutien à l'ex-président tchadien Hissène Habré. L'Organisation de défense des droits de l'homme cherche à comprendre l'étendue de l'aide de la France au régime de Habré, ce que savaient les plus hautes autorités françaises sur l'ampleur des violations des droits de l'homme qui étaient en train d'être commises au Tchad. Human Rights Watch demande donc la déclassification des archives de l'Élysée. Les autorités américaines, également mises en cause dans le rapport, ont promis d'enquêter.
Dans l'ouest du Soudan du Sud, Morgane, plus de 40 personnes ont été tuées dans des affrontements qui ont entraîné l'exode de plus de 10 000 personnes. Lionel Gahima a les détails.
D'après le ministre sud-soudanais de l'information, Michael Makuei, le bilan provisoire est d'au moins 39 civils et 4 policiers tués depuis vendredi à Wau, au nord-ouest de Juba. Un porte-parole de l'armée accuse des éléments opposés à la paix et soutenus par des combattants tribaux. Les casques bleus ont dû ouvrir les portes de leur base à Wau pour accueillir plus de 10 000 victimes fuyant les combats. Le calme est revenu dans la ville, mais les affrontements continuent en divers endroits du pays. Ils opposent les milices locales qui ne se sentent pas concernées par l'accord de paix entre le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar. Le facilitateur Festus Mogae, ancien président du Botswana, a affirmé que les progrès espérés ne se sont pas matérialisés et que si les partis ont bougé l'une par rapport à l'autre, c'est uniquement pour s'éloigner.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, les dirigeants européens ont exhorté ce mardi le Royaume-Uni à assumer le Brexit et à s'engager rapidement, sans négociation à la carte, vers la sortie de l'Union européenne. Nathalie Barge.
5 jours après le référendum qui a vu 52% des Britanniques voter pour la sortie de l'Union européenne, Londres a émis l'espoir d'une procédure aussi constructive et étroite que possible. Même si nous sommes en train de quitter l'Union européenne, nous ne tournons pas le dos à l'Europe, a assuré le Premier ministre David Cameron à un sommet européen à Bruxelles. L'Union européenne est prête à commencer la procédure de divorce dès aujourd'hui, a déclaré le président du Conseil européen Donald Tusk. Pour la chancelière allemande Angela Merkel, l'Union européenne est assez forte pour surmonter le départ de la Grande-Bretagne. L'inquiétude sur les conséquences du divorce à venir est manifeste chez les Européens, soucieux d'éviter une contagion à d'autres États membres.
Le président américain Barack Obama a mis en garde contre une hystérie internationale après le vote pour le Brexit. Dans une interview publiée aujourd'hui, il a appelé à ne pas surévaluer la portée d'une décision qui n'aura pas de conséquences catastrophiques.
Et ici aux États-Unis, une commission d'enquête de la Chambre des représentants, dominée par les républicains, a publié aujourd'hui un rapport final sur ce qui est désormais connu comme l'attaque de Benghazi en Libye, qui a coûté la vie à 4 Américains le 11 septembre 2012, dont l'ambassadeur Christopher Stevens. Le document pointe des carences sur le plan militaire des Américains pour prévenir un tel attentat terroriste. Jacques Aristide.
Une enquête qui aura duré 2 ans et coûté 7 millions de dollars, le Benghazi Report, épais de 800 pages, reproche au département d'État, au ministère de la Défense et à la CIA d'avoir minimisé les risques de sécurité à Benghazi et maintenu dans cette ville des installations dont le consulat américain qu'il ne pouvait pas protéger. L'élu républicain Trey Gowdy, président de cette commission d'enquête, a fait remarquer qu'aucun moyen militaire américain n'avait été déployé à Benghazi malgré les ordres du président Barack Obama, puis du secrétaire à la Défense Léon Panetta. Les membres démocrates de la commission ont rejeté le contenu du rapport. Les républicains, dont le candidat à la Maison-Blanche, Donald Trump, avait déjà accusé Hillary Clinton, alors secrétaire d'État, de n'avoir pas fourni les moyens sécuritaires adéquats à la mission de Benghazi. Les responsables de la campagne présidentielle de la candidate démocrate ont déclaré que l'enquête de Gowdy n'avait rien trouvé de nouveau pour contredire les conclusions des multiples enquêtes qui ont déjà été menées.
Jacques Aristide. Au Yémen, au moins 80 personnes, dont 37 civils, ont été tuées en 24 heures dans des raids aériens et des combats dans différentes régions du pays. Ces 80 morts s'ajoutent à 42 personnes tuées lundi dans une série d'attentats contre des militaires revendiqués par le groupe djihadiste État islamique dans un ancien bastion de son rival Al-Qaïda dans le sud-est.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a qualifié aujourd'hui le blocus israélien de Gaza de « punition collective alimentant l'escalade des violences ». Il a exhorté le Premier ministre israélien à prendre des mesures courageuses pour la paix avec les Palestiniens.
La Turquie et l'Israël vont lancer cette semaine la procédure de nomination d'ambassadeurs dans la foulée de l'annonce de la normalisation de leurs relations. Un porte-parole de la présidence turque a annoncé par ailleurs une rencontre vendredi sur la mer Noire des chefs de la diplomatie des deux pays en marge d'une rencontre à Sochi sur la coopération économique.
Le premier ministre irakien Haider al-Abadi a subi un revers mardi. Donc aujourd'hui, un tribunal a invalidé une session du Parlement qui avait permis d'entériner la nomination de nouveaux ministres technocrates proposés par le chef du gouvernement pour accélérer les réformes. Le tribunal a estimé que cette session s'était tenue dans une atmosphère peu favorable avec la liberté d'opinion. En conséquence, la nomination des ministres technocrates est annulée.
Le gouvernement tunisien annonce l'ouverture d'une enquête après la condamnation d'un Français à 16 ans de réclusion criminelle par la justice française pour des agressions sexuelles sur 66 garçons, dont 41 Tunisiens.
Thierry Darontière, 52 ans, Eric, a été condamné le 22 juin à 16 ans de réclusion criminelle devant les assises de Versailles pour avoir violé 66 garçons au Sri Lanka, en Tunisie et en Égypte.
Et 2 vaccins ont permis de protéger complètement des souris de l'infection par le virus Zika, qui a affirmé des chercheurs Morgan. Et cette découverte suscite l'optimisme pour la mise au point d'un rempart contre ce virus à l'origine de lésions cérébrales chez le fœtus.
Allez, une dernière nouvelle avant de finir. La Cour suprême des États-Unis a de facto validé des jugements interdisant des entraves locales dans l'exercice des médecins, pratiquement des avortements, au lendemain d'une décision historique annulant de telles mesures au Texas.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
Et on passe au sport à présent dans cette émission avec le journal de l'Euro avec Bagassi Koua. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Suite à fin des huitièmes de finale hier soir et l'Espagne et l'Angleterre qui passent à la trappe.
Oui, scénario incroyable hier à Nice. L'Islande a réussi un superbe exploit en éliminant l'Angleterre 2-1. Les Islandais, menés dès la cinquième minute après un pénalty de Rooney, ont renversé les Three Lions. Ils retrouveront la France en quart dimanche au Stade de France. Un bel exploit pour ce petit poussé de la compétition, comme nous l'explique Jean-Roger Bion.
Et il ne fallait pas arriver en retard hier à Nice sur un pénalty logique accordé aux Anglais. Wayne Rooney ouvre le score dès la quatrième minute de jeu. On se dit alors que les Islandais vont passer une mauvaise soirée, mais il n'en fut rien. Les Islandais égalisent quelques instants plus tard grâce à Sigurdsson. Pire, à la 18e minute de jeu, Sigurdsson trompe Joe Hart 2-1. L'Angleterre va pousser pendant tout le reste de la rencontre, mais va vite se rendre compte qu'elle n'a pas les moyens de bousculer une formation héroïque. Score final 2-1 pour l'Islande qui participe à son premier Euro. Nouvelle désillusion pour les Anglais qui perdent aussi leur sélectionneur. En effet, une fois la défaite consommée, le sélectionneur anglais Roy Hodgson a annoncé sa démission en conférence de presse. Le sélectionneur de 68 ans avait été nommé en mai 2012. Il avait survécu à l'élimination de l'Angleterre au premier tour du Mondial il y a 2 ans.
Ouais, après le Brexit, c'est le départ de l'équipe nationale. Je le disais précédemment, l'Espagne, tenante du titre, s'est aussi fait éliminer hier soir.
Oui, le choc Italie-Espagne, un remake de la finale de l'Euro 2012. L'Italie s'est brillamment qualifiée en gagnant 2-0. Notre correspondant à Paris, Christian Mpanzu, nous résume cette rencontre.
Insatiable, l'Italie surprend une nouvelle fois la planète football. Face au double tenant du titre espagnol, la squadra azzurra a fait preuve de courage, mais aussi d'une immense culture tactique pour se qualifier. D'entrée de jeu, les joueurs d'Antonio Conte imposent leur pressing et gênent considérablement l'Espagne, qui peine à poser le pied sur le ballon. Offensivement, les Italiens amènent le danger en contre-attaque, et c'est d'ailleurs sur un contre qu'ils obtiennent un coup franc dangereux à 20 mètres face au but. Eder tire le coup franc, repoussé par David De Gea, mais Chiellini reprend le ballon et l'envoie au fond des filets à la 33e minute. En seconde période, les Espagnols se rebellent, retrouvent la possession du ballon et se procurent même plusieurs occasions jusqu'à la fin du temps réglementaire. Piqué a même une balle d'égalisation à moins de 5 minutes de la fin du match, mais Gianluigi Buffon sort une parade de très grande classe pour dévier le ballon. Quelques instants plus tard, les Italiens inscrivent le deuxième but. Pelé est à la conclusion d'un contre. L'Italie est désormais parmi les favoris de cet Euro et affrontera l'Allemagne ce samedi en quart de finale. Depuis Paris, Christian Mpanzu pour VOA Afrique.
Merci Christian, et à noter que les Italiens affronteront les Allemands en quart de finale. Un choc entre deux références du foot mondial. C'est le coup de sifflet de Jules Valentin Ngoué.
Bonjour. Le match Italie-Espagne était à juste titre le choc surprise des huitièmes de finale de l'Euro 2016. Une finale avant la lettre opposant plutôt que prévu le champion et le vice-champion de l'édition précédente. Plus en Coupe du Monde qu'en Coupe d'Europe, les rencontres entre l'Allemagne et l'Italie ont toujours constitué des matchs référence avec leur lot de souvenirs de légende. Nul n'a oublié la finale échevelée d'Espagne 82 et ce troisième but du break de l'infatigable Marco Tardelli qui mettait fin aux espoirs de la Mannschaft. Ou encore la dramatique course-poursuite de Mexico 70 et ce bras en écharpe du capitaine courage allemand Franz Beckenbauer passé à la postérité. Après le match exceptionnel de Ligue des champions du mois de février entre la Juventus de Turin et le Bayern de Munich, au statut des équipes nationales, nul doute que les deux mastodontes européens vont nous livrer un quart de finale mémorable. On ose espérer que le vainqueur gardera assez de ressources pour valider son parcours en fin de compétition. À demain.
C'était le journal de l'Euro, présenté par Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec John Lindon.
Un accord de financement de 40 millions de dollars a été signé entre la Guinée et la Banque mondiale. Cet appui budgétaire devrait permettre de financer de nouveaux projets. L'accord a été signé par Maladou Kaba, ministre de l'économie, et Rachidi Radji, représentant de la Banque mondiale. La Banque mondiale, justement, a rendu public aujourd'hui l'édition 2016 de son indice de performance logistique. Ce rapport biannuel est intitulé « Se connecter pour faire la différence, la logistique commerciale dans une économie globale ». Il s'appuie sur une enquête auprès de plus de 1050 responsables d'entreprises de logistique à travers 132 pays. Sur le continent, la première place revient à l'Afrique du Sud, 20e au classement mondial, suivi du Kenya. Trois mois après avoir annoncé leur rapprochement pour étendre leurs activités en Afrique dans l'assurance de spécialité, l'assureur français AXA et le britannique Chaucer ont lancé hier à Abidjan AXA Africa Specialty Risk pour la zone de l'UEMOA. La co-entreprise couvrira en Afrique les sinistres et dommages liés au terrorisme, à l'instabilité politique et aux mouvements populaires.
Morgane Guiriec et Eric Manelakis en votre compagnie. Place au dossier du jour, Morgane. Première escale.
Le Congo-Brazzaville, qui traverse depuis des mois une mauvaise passe financière. Plusieurs chantiers de construction d'infrastructures sont aux arrêts, tandis que les opérateurs économiques locaux broient du noir. Les compagnies pétrolières, d'où le pays tire plus de 85% de ses ressources, commencent à licencier le personnel. Une situation incroyable quand on sait qu'il y a deux ans, le Congo avait un budget qui dépassait les 4 000 milliards de francs CFA. À Brazzaville, le reportage de Ngolan Goussou.
Derrière son bureau, se rongeant parfois les angles, Joseph, un gestionnaire de crédit de l'État dans l'administration scolaire, étouffe visiblement à cause de la crise financière.
C'est l'administration publique, malheureusement. Quand vous allez pour retirer une situation de crédit, le disponible est toujours à zéro. Donc quand vous voulez engager une seule dépense, il faut passer par des négociations. Vous écrivez au directeur général du budget, le directeur général du budget vous autorise à engager. Comme si ce n'était pas un budget déjà validé. Et c'est tout le problème. Et ce n'est pas n'importe quelle dépense qui peut passer. Vous constatez déjà qu'il n'y a pas d'encre, pas de papier.
Les patrons, eux, font les frais de la morose situation financière. Le chef du patronat congolais, El Hadj Abdullah Djibril Boupaka, ne passe pas par le dos de la cuillère pour décrire ce que vivent les entreprises locales.
La crise est réelle. Les entreprises aujourd'hui, il y en a d'autres où sont obligées de licencier les travailleurs pour éviter des surcharges insupportables. Il y en a d'autres qui procèdent sur les plans de réduction des charges sur les taxes, les primes. Et il y en a d'autres qui pensent que, il faut fermer complètement. Nous n'avons pas de banques d'investissement dans notre pays. Nous n'avons que des banques de dépôt. Et donc, à ce niveau, nous comptons que sur nos propres efforts. Aujourd'hui, les marchés ne sont plus opérationnels. Aujourd'hui, le paiement des factures ne sont plus opérationnels. Aujourd'hui, l'argent ne circule pas à la cité.
En 2013 seulement, le Congo-Brazzaville, c'était 4 000 milliards de budget, 5% de taux de croissance et plus de 1 000 milliards d'épargne budgétaire. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Alphonse Ndongo, un analyste économique.
On sait très bien que l'État aujourd'hui est obligé, même pour redresser la compagnie nationale Équerre, de procéder à ce qu'on appelle l'emprunt obligataire. La solution, qu'on le veuille ou non, sauf si les choses venaient à s'améliorer d'ici la fin de l'année, mais nous sommes bel et bien partis pour nous adresser au FMI.
Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Au Cameroun, Eric, le ministère de la Santé publique, André Mama Fouda, entend renforcer la lutte contre le sida.
Et dans une note d'information rendue publique, le 22 juin dernier, toute personne voulant se faire consulter à l'hôpital sera systématiquement soumise au test du VIH-Sida.
Une initiative qui suscite beaucoup de réactions. John Lindon s'est entretenu avec Alphonse Aïssi à Bénin, auteur d'une lettre ouverte adressée au ministre de la Santé.
une décision unilatérale, une décision qui a été faite en one man show, surtout lorsqu'on sait que nous sommes dans un pays où il y a des comptes sociaux, il y a des institutions organisées, il y a la société civile. Il faut toujours mettre tout le monde autour de la table pour que la meilleure idée, la meilleure option puisse être prise.
Alors pour vous, la meilleure idée, la meilleure option, ce serait quoi?
Mais la meilleure idée, c'est ce qui a été lancé depuis le début. Vous savez, il y a d'abord une institution qui a lancé ce qu'on appelle le vaccin social. Le Centre international de recherche en salle d'IA, il y a 3 mois, a lancé la campagne vaccin social pour inviter tout le monde à la prévention, pour inviter tout le monde à faire ce qu'on appelle un dépistage volontaire.
Alors, et qu'est-ce qu'on fait lorsque on appelle les gens à se faire dépister et que personne n'est volontaire?
Non, mais nous constatons que la jeunesse est de plus en plus volontaire. Ici au Cameroun, lorsqu'il y a une campagne de dépistage gratuite au coin d'une rue, dans des lycées, dans des universités, c'est tout le monde qui se manifeste pour y aller. Mais je vous rappelle que dans toutes les organisations, dans toutes les entreprises, il y a des pères éducateurs formés, il y a des campagnes de dépistage. C'est pratiquement une démarche régulière dans toutes les entreprises camerounaises, dans toutes les organisations, que ce soit les associations, que ce soit les clubs de football. On le voit, c'est fréquent, les campagnes de dépistage volontaire et anonyme pour amener les gens à se faire dépister. Vous savez que la manière avec laquelle on avait présenté cette maladie fin années 80, début années 90, a fait en sorte qu'il y avait cette psychose en disant que quand on a le VIH-SIDA, c'est qu'on est déjà condamné à mourir. Mais aujourd'hui, avec la campagne de conseiller, on a amené les gens à savoir que vous pouvez vivre avec, vous pouvez être porteur du virus, venez vous faire dépister. Parce que, étant dépisté, vous protégez votre entourage.
Alors, est-ce que vous avez une idée du taux de prévalence de VIH au Cameroun en ce moment?
On est autour de 620 000 personnes. C'est un taux qui tourne autour de 4,5% de la population.
Voilà, c'était Alphonse Aïssi Abena, président national de la Fondation camerounaise des consommateurs.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Oui, belle mélodie, on passe au Togo. Des Togolaises employées comme domestiques dans les pays du Golfe exposent l'horreur et le calvaire qu'elles subissent au Koweït, Liban, en Arabie Saoudite, en Iran et même en Irak. Elles ont fait de troublantes révélations au mouvement Martin Luther King au Togo sur des traitements inhumains, des viols, retenues de salaire, sévices corporels et tant d'autres menaces, Morgane. Idriss Fall a joint le pasteur Edo Tomi, président du mouvement Martin Luther King à Lomé.
La situation actuelle est tellement déplorable, la situation est hors du contrôle parce que, à l'heure où nous vous parlons, dans les pays du Golfe, les Togolaises ne savent plus à quel sens se vouer. Et tout est à l'unanimité, elles veulent rentrer au pays. Elles veulent rentrer parce qu'elles estiment qu'elles n'ont plus leur place dans ce pays, parce qu'elles sont en train de souffrir. C'est la misère, c'est totalement le désespoir. Et ça urge. Ça nécessite une action d'urgence de la part du gouvernement togolais.
Quand vous parlez des pays du Golfe, c'est plus précisément dans quel pays? C'est au Koweït, en Arabie Saoudite ou?
Elles sont réparties au Koweït, Arabie Saoudite et d'autres en Iran.
Comment est-ce qu'elles sont traitées là-bas?
Mais elles sont traitées, mais écoutez, je crois quand même que d'abord, quand vous parlez, elles n'ont pas de protection juridique. Le contrat, c'est un contrat qui est irrégulier. Parce que la plupart de ces femmes-là quittent ici illégalement et illicitement par les réseaux clandestins qui opèrent dans la clandestinité. Et là-bas, il n'y a pas de protection juridique. Elles travaillent plus de 14 heures par jour, ce que vous voyez, ce qui n'est pas conforme au statut de l'Organisation internationale du travail. Elles sont violées, elles sont harcelées. Il y a la retenue de leur salaire. Elles travaillent pendant 2-3 ans. Finalement, elles se retrouvent nulles. Au retour même, certaines femmes sont déjà arrivées au Togo ici sans même avoir un rond. Donc c'est de l'esclavage, c'est de l'exploitation humaine sous forme moderne. Mais je vous assure que les pays du Golfe sont des pays à risque, donc qui sont non recommandables.
Mais en fait, ça ne touche pas que le Togo, parce que le phénomène va jusqu'au Sénégal, au Mali. Beaucoup de jeunes veulent aller dans les pays du Golfe.
Oui, je crois que nous, ce que nous allons essayer de faire, nous allons procéder à une pétition que nous allons adresser à l'Union africaine. Et il va falloir quand même que l'Union africaine se penche sur ce sujet, parce que le phénomène, c'est ce général. Et on ne peut pas accepter que nos compatriotes, que les Africains puissent aller mourir dans de telles situations. C'est ce forme de l'immigration clandestine aujourd'hui. Je crois quand même que ce qui se passe aussi doit être discuté et doit être dévoilé comme aujourd'hui on parle de l'immigration clandestine.
Le pasteur Edo Tomi, président du mouvement Martin Luther King à Lomé.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Quelles seront les conséquences possibles en Afrique du Brexit, la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, les accords commerciaux en seront-ils affectés, y aura-t-il des changements à l'aide au développement, le Brexit peut-il tout de même offrir des opportunités à l'Afrique, y a-t-il également une dimension politique qui pourrait affecter le continent? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Une bande dessinée intitulée Kouka, à laquelle est annexé un jeu concours sur le phénomène de la corruption. Tel est le défi du RENLAC, Réseau National de Lutte Anticorruption du Burkina Faso, pour initier, informer, sensibiliser les jeunes de 7 à 16 ans. L'objectif est qu'ils puissent plus tard porter fièrement le nom du Burkina Faso, c'est-à-dire le pays des hommes intègres. C'est ce que nous dit de Ouagadougou Zoumana Wanogo.
Il y a eu en tout 12 primés, 6 du primaire et 6 du secondaire. Les prix vont de 35 000 francs CFA à 160 000. Claude Ouetta, le secrétaire exécutif du RENLAC, le Réseau National de Lutte Anticorruption, explique les objectifs du jeu concours Kouka.
Globalement, ce qu'on cherche à travers effectivement le jeu concours, c'est de faire en sorte que la jeunesse s'intéresse à la lecture, qui leur permet de mener des combats qui sont des combats nobles et qui permet effectivement de promouvoir la lutte anticorruption dans notre pays. La mayonnaise est en train de prendre. Au départ, on avait été à 15 000 exemplaires. Actuellement, on est à 35 000.
Avec les jeunes primés, nous avons essayé à notre manière un concours sur leur connaissance de la corruption.
Je m'appelle Koulibaly Wokaren Pascal. J'ai été primé du jeu concours Kouka du primaire. Pour moi, la corruption est un frein au développement de notre pays. Je pense que la bande dessinée Kouka peut servir aux jeunes dans la lutte contre la corruption.
Je m'appelle Sawadogo Olive Adelph. Quand on dit corruption, ça veut dire qu'il y a au moins deux personnes, c'est-à-dire un corrupteur et un corrompu. Je pense que la corruption n'est pas bien. Je dis aux gens de ne pas aimer la corruption, car c'est un mauvais acte qui ne rapporte rien, mais au contraire qui fait du mal à l'économie du pays. Un bon Burkinabé doit éviter la corruption.
Vous l'avez tenu, Patrick, parfait. La corruption, c'est le fait d'user de ses fonctions officielles pour en tirer un gain personnel. La corruption, ça tue l'économie d'un pays. On doit lutter contre la corruption.
Le RENLAC produit chaque année un rapport sur l'état de la corruption au Burkina, suivant avec son secrétaire exécutif, Claude Ouetta, le classement des secteurs les plus corrompus au Faso.
Les secteurs corrompus, ce qu'on a constaté, c'est que c'était les marchés publics qui étaient en tête. Ensuite, il y a la douane qui est en deuxième position. Et ensuite, il y a la police municipale. Si on prend par exemple les notes de Transparency International, on a 3,8 sur 20. Presque 80%, et peut-être même quelquefois un peu plus, disent que la corruption est forte ou très forte dans notre pays.
Zoumana Wanogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Moumtou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mardi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
La fin de cette édition. Souleymane Tarawalé est à la mise en onde, à la console. C'était Tarawalé à la console et Joselle Morissin à la mise en onde. Présentation Morgane Guiriec et Eric Manirakiza.
Ainsi va le monde aujourd'hui, Morgane. Merci à vous tous qui nous suivez sur Facebook. Vous êtes plus d'1,250,000. On maintient la conversation. Et surtout, restez branchés, visitez notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.